Le débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir, bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. 13 ans après son accession au pouvoir, l'homme fort de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, fait de nouveau face au péril de la désunion nationale dans un climat de guerre civile. Forcé à un gouvernement de coalition après avoir perdu la majorité au Parlement en juin, M. Erdogan a réenclenché les hostilités avec la partie kurde au sud-est du pays. Le voilà désormais confronté à l'échéance d'un nouveau scrutin législatif, ce sera le 1er novembre prochain, avec l'espoir de retrouver le contrôle total des commandes du pays. Alors, quelles sont ses chances de succès? Comment va-t-il s'y prendre pour imposer l'hyper-présidence qu'il appelle de ses voeux? On en parle avec nos deux invités ce soir. Je vous les présente tout de suite. Didier Billion est directeur adjoint de l'IRIS, c'est l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Il est le co-auteur de l'année stratégique 2016, c'est aux éditions Armand Collin et c'est disponible, m'a-t-il dit tout à l'heure, en librairie aujourd'hui même. Bonsoir à vous, Didier Billion.
Bonjour.
Et puis, Ali Kassantigil est politologue, directeur de la revue géopolitique Anatolie et co-auteur d'un livre qui a pour titre « La Turquie d'une révolution à l'autre », c'est chez Fayard. Bonsoir Ali Kassantigil.
Bonsoir.
Alors, élection perdue en juin, nouveau scrutin en novembre, est-ce qu'on peut dire que M. Erdogan a du mal à accepter le verdict des urnes? Je commence avec vous, Didier Billion.
Ah, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Tout le projet de Erdogan lors des dernières élections législatives, c'était de parvenir à obtenir une majorité qualifiée, lui permettant de modifier la Constitution dans la voie d'une présidentialisation de celle-ci. Manque de chance, le peuple turc a tranché et son parti a atteint 40% des suffrages, un peu plus de 40%, ce qui est déjà pas mal après 13 ans de pouvoir, mais ce qui ne constitue pas la majorité espérée, la majorité qualifiée espérée. Et alors, depuis lors, malheureusement, la situation s'est considérablement dégradée en Turquie. Vous l'évoquiez, je ne dis pas que c'est une guerre civile, mais un climat de guerre civile incontestablement, puisqu'on se rappelle qu'après l'attentat qui a eu lieu à Suruç, eh bien, M. Erdogan a déclaré la guerre au terrorisme, et au terrorisme avec un S, à la fois contre Daesh, l'organisation de l'État islamique, mais surtout contre le PKK, le fameux parti des travailleurs du Kurdistan, avec lequel il était en pourparlers politique depuis plusieurs années. Donc là, il y a déjà un pas de deux. Comment comprendre qu'on bombarde et qu'on qualifie de terroriste une organisation avec laquelle on est en train de discuter pendant plus de deux ans, près de deux ans et demi? Il y a là une première contradiction. Et puis on s'aperçoit que depuis cette fin du mois de juillet, l'intensité des bombardements contre le PKK est beaucoup plus importante que contre les bases de Daesh. Donc en réalité, il y a un jeu de politique intérieure extrêmement inquiétant, extrêmement préoccupant, extrêmement dangereux. Il y a une sorte de fuite en avant de la part de Erdogan, qui ne craint pas d'installer un climat de guerre civile, de façon à, pense-t-il en tout cas, et c'est son plan, parvenir à obtenir une majorité plus importante lors du scrutin du 1er novembre en mordant sur une partie de l'électorat nationaliste qui lui a fait défaut au mois de juin. C'est là le projet de Erdogan. Vous comprendrez que risquer de tomber dans une véritable guerre civile pour des raisons électoralistes, c'est pour le moins inconséquent et préoccupant pour l'avenir de la Turquie.
Alors, on va évoquer tous ces questions que vous soulevez à l'occasion de cette conversation, Ali Kassantigil. On a l'impression quand même que M. Erdogan, à l'intérieur comme à l'extérieur de son pays, devient un homme de plus en plus seul. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette sensation peut se vérifier?
Oui, c'est-à-dire que c'est un homme, c'est un habile politicien, c'est un populiste, et il a commencé sa carrière à la tête de la Turquie de manière positive. Entre les années 2002 et 2006, 2007, 2008, la Turquie, la société turque ont beaucoup progressé. La démocratie a progressé et donc on pensait que l'économie aussi allait très bien. Donc on pensait que les gens parlaient d'un modèle turc pour le Moyen-Orient. Et à partir de 2010-2011, c'était la troisième victoire électorale d'Erdogan. Il a commencé à manifester un penchant, une orientation très autoritariste, dictatoriale quasiment. Il était aussi sûr d'avoir affaibli l'armée et repoussé l'armée dans ses casernes, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs. Et il s'est fantasmé comme, en quelque sorte, je peux dire, le second Atatürk de la Turquie. Atatürk, c'était laïque, il était laïque, et lui, le côté islamique, donc. L'homme indispensable, sachant tout, se mêlant de tout, amenant la Turquie vers un avenir brillant. Mais la société turque, grâce à lui en partie, a beaucoup changé. C'est-à-dire que les Turcs aujourd'hui comprennent mieux ce qui se passe. Les citoyens turcs, les électeurs turcs, ils ne marchent plus dans cette dérive nationaliste. Dans le passé, tout le monde marchait derrière le leader nationaliste. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Erdogan est accusé de faire tuer des jeunes dans le pays, des gens pour rien. C'est une espèce de début de guerre civile totalement inutile, puisque il négociait avec le PKK, la violence s'était arrêtée, les Kurdes de Turquie faisaient confiance à l'État turc, et tout ça, ça s'est écroulé uniquement pour avoir une majorité au Parlement. Or, il ne l'aura pas. Tous les commentateurs censés en Turquie, ils écrivent, les sondages, la majorité des sociétés de sondage donnent en gros 38% pour le 1er novembre, 38-39, alors qu'il avait un peu plus de 41. Donc, il aura un Parlement encore plus affaibli. Et il a aussi, donc, au-delà de ce fantasme du grand homme, il a aussi peur. Parce que il est coupable de corruption. Son entourage, sa famille. C'était en décembre 2013, cette affaire est venue sur le devant de la scène. Et puis, il viole la constitution turque depuis qu'il est président. C'est une constitution qui prévoit un régime parlementaire avec un président qui représente le pays, mais qui a peu de pouvoir. Or, la constitution n'a pas changé et lui, il se comporte comme un dictateur. Il décide de tout, comme chef d'exécutif.
Restons sur les élections un instant pour essayer de comprendre pourquoi M. Erdogan convoque une élection qui n'est pas vraiment sûre de gagner si l'on la majorité absolue. On interroge Didier Billon sur ce sujet.
Je pense que M. Erdogan, depuis déjà plusieurs années, a démontré qu'il avait une singulière conception de la démocratie. Je me permets de faire un tout petit retour en arrière. Vous vous souvenez qu'il y a 2 ans, il y avait ces fameuses manifestations, notamment à Istanbul, mais dans de nombreuses autres villes turques, autour du parc de Gezi. Cette histoire du parc de Gezi avait cristallisé beaucoup de tensions politiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je me souviens qu'à l'époque, M. Erdogan expliquait que ce mouvement était insupportable parce que son parti avait acquis à l'époque la majorité parlementaire, ce qui était vrai et ce que personne ne contestait. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que M. Erdogan conçoit la démocratie comme le pouvoir absolu du parti qui est en tête. Oui. Donc j'ai 50% ou plus de 50% des voix à l'époque, et donc je fais ce que je veux. Je n'ai pas besoin d'écouter ce que demande, réclame, revendique l'opposition, parlementaire ou extra-parlementaire. Donc c'est une conception très singulière, très restrictive, qui n'est pas acceptable dans un grand pays comme la Turquie.
Et qui a changé dans l'esprit de M. Erdogan, comme le dit tout à l'heure Kazantzidis.
Oui, bien sûr, au début, M. Erdogan n'avait pas cette façon de raisonner, en tout cas publiquement, et les mesures qu'il avait prises, et Ali Kazantzidis l'a parfaitement raison, il y avait eu un processus d'extension des droits démocratiques individuels et collectifs en Turquie, incontestablement. Nous sommes dans une nouvelle séquence, probablement parce que M. Erdogan est au pouvoir depuis fort longtemps, et il est assez humain, que ce soit en Turquie ou ailleurs, mais là nous parlons de la Turquie, qu'un homme au pouvoir sans véritablement une opposition structurée, efficace et alternative, eh bien, peu à peu, considère qu'il peut décider de tout. Et donc, je pense, pour revenir à votre question, qu'il pense qu'en surfant sur les tensions et les polarisations de la société qu'il a lui-même contribué à créer, notamment avec le risque terroriste, qui est un véritable risque, ça c'est pas lui qui l'a inventé, mais il l'instrumentalise, et il pense qu'ainsi il va pouvoir gagner les élections. Mais ça relève, c'est une expression que j'ai utilisée dans un quotidien turc aujourd'hui, d'une forme d'autisme politique. Il n'est plus en situation de bien comprendre les dynamiques qui se déroulent, qui se cristallisent à l'intérieur de sa propre société, ce qui est inquiétant.
Mais est-ce qu'il reste un dirigeant populaire en Turquie, ou est-ce que cette popularité est en train de s'effriter? On rappelle quand même qu'il a été élu en 2014 au premier tour au suffrage universel.
52%.
Oui, oui. Non, il reste populaire pour des raisons essentiellement, je dirais, socio-économiques. Je me rappelle des sondages de sortie des urnes en 2007, notamment. 80% des gens qui avaient voté pour l'AKP déclaraient que c'était pour des raisons socio-économiques. Parce que le niveau de vie des couches, à revenus modestes en Turquie, a été multiplié par 3. ce pays est devenu un pays émergent qui avance vraiment très fortement. Donc, rien que cela lui donne une base électoraliste, électorale. Mais, comme disait Didier, cette conception plébiscitaire de la démocratie n'est pas acceptée par les Turcs aujourd'hui. Parce que les Turcs, quand même, votent. Il y a eu parfois des élections contestées, mais votent depuis 1946. Donc, ils ont une certaine pratique de la démocratie, en tout cas de l'électoralisme. Donc, ça ne plaît pas du tout. Et ce qu'il fait, et encore une fois, la société ayant changé, par exemple, aujourd'hui, dans la société, il y a un débat sur la reconnaissance du génocide arménien. Mmh. Et c'est un débat sur une base universaliste. Donc, les Turcs ne marchent plus comme ça, comme un seul homme, derrière le leader nationaliste, etc. Donc, il est finalement, dans un sens, désespéré, parce qu'il ne comprend pas non plus. Il est autiste. Il ne comprend pas comment, lui qui a fait tant fait pour les Turcs, pour ces gens pauvres d'Anatolie, etc., eh bien, on le conteste. Il ne comprend pas. Son cas, je dirais, relève moins maintenant de la politique que de la psychiatrie et aussi de la justice. Alors, parce qu'il viole la Constitution.
Oui. On va aborder la question kurde parce qu'elle est très importante dans la problématique que nous évoquons. Comment expliquer le changement d'attitude de M. Erdogan, une fois de plus ? Pour des raisons psychiatriques, vous allez me dire encore, peut-être, homme proclamé quand même de la réconciliation à son arrivée au pouvoir en 2003, aujourd'hui prend une guerre sans concession pratiquement. Qu'est-ce qui explique un changement aussi radical, Didier Billion?
Tout d'abord, sur la question kurde, force est d'admettre que sur ce dossier, nous avions conçu quelque espoir il y a deux ans et demi, parce que Erdogan faisait tomber un tabou. Il acceptait de négocier, non pas avec la partie kurde de la population turque, mais avec le PKK, qualifié comme organisation terroriste. Mais ma foi, je me félicitais de cette posture, de cette attitude, parce que ça brisait un tabou et ça permettait d'aller de l'avant. Cette question kurde, qui ne se réduit pas à la question du PKK par ailleurs, c'est, je le crois, le dossier central de la Turquie. Mmh. Et on peut considérer que la Turquie ne pourra pas se démocratiser jusqu'au bout si elle n'est pas capable de régler cette question kurde. Mmh. Donc, il y a eu transgression des lignes, mais positivement, par Erdogan, en négociant avec le PKK. Sauf que le résultat de ces élections du mois de juin dernier, qui ont été une sorte de douche froide assez sévère pour lui, car il ne conçoit pas, comme l'explique Ali, qu'il puisse y avoir une défaite. Il ne comprend pas pourquoi une partie de son électorat, ceux qui votaient pour lui jusqu'à ces dernières élections, eh bien, ont voté pour d'autres partis. Et ça, il a beaucoup de mal à le comprendre. Et c'est pourquoi il instrumentalise cette question. Il faut dire, pour revenir dans les détails sur l'enchaînement des faits, c'est important, qu'après l'attentat de Suruç, qui a fait quand même près de 60 morts, qui n'a jamais été revendiqué officiellement par Daesh, même s'il y a de forts soupçons toutefois, mais le lendemain ou le surlendemain, il y a eu l'assassinat, je dis bien l'assassinat, de deux policiers dans leur appartement, par des gens se revendiquant du PKK. Ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et Erdogan a saisi cet événement, ma foi, secondaire. La mort de deux hommes est toujours condamnable, bien sûr. L'assassinat de deux hommes. Mais en même temps, il s'est saisi de ça en disant ben, il y a donc une sorte d'égalité entre Daesh et le PKK. Il est nécessaire de repartir. Mais pour des raisons électoralistes, d'instrumentalisation de cette question. Et c'est ça qui est très inquiétant, c'est qu'il y a un changement de posture très radical et très rapide. Parce que Erdogan est un animal politique et il croit saisir que sur ce dossier, sur cet assassinat de policiers, il va pouvoir attaquer le PKK pour se refaire une virginité politique. Erreur totale de perspective, mais c'est ce qu'il considère.
Malgré la résurgence quand même des combats contre les militants kurdes, le nouveau gouvernement intérimaire, certes, inclut des députés kurdes depuis lundi. Est-ce que ça peut être vu comme un signe d'apaisement ?
Écoutez, je ne pense pas. Le parti kurde, Erdogan estime que c'est le parti kurde qui lui a fait perdre sa majorité. parce que c'est un parti très démocratique, par un leader sympathique, charismatique, et qui a obtenu des suffrages de Turcs de l'ouest de la Turquie aussi. Et aujourd'hui encore, il reste très populaire. Or, Erdogan, immédiatement après les élections, il a commencé à attaquer ce parti, le passé de ce leader, en disant il a été un terroriste, etc., etc. Et ce parti, pour maintenir sa position, a accepté finalement de participer à ce gouvernement qui est censé préparer les élections du 1er novembre. Mais finalement, ça ne signifie pas grand-chose. Ce parti reste, je pense, un facteur très important, encore que il y a peut-être, c'est pas très visible, des tensions entre le PKK et ce parti. Parce que ce parti joue la démocratie et le jeu de la Turquie. Et le PKK, c'est une organisation de guérilla, forcément, c'est la violence. Et donc là, il y a quelque chose. Mais je pense que Erdogan ne pourra pas revenir. Beaucoup d'analystes que je lis dans les journaux turcs, des gens sérieux, disent Erdogan ne pourra pas remonter. Ça, son handicap, c'est fini pour lui.
Mmh, mmh. On parlait, oui, si vous voulez intervenir rapidement sur ce...
Un mot, non mais je suis d'accord avec Ali, mais il faut bien comprendre que toute la politique de Erdogan depuis maintenant 2 mois, c'est d'essayer de criminaliser le parti, le HDP, qui pourtant a 80 députés, c'est un parti parlementaire. Toute la politique, les déclarations d'Erdogan, c'est de dire c'est la couverture du PKK, donc il faut les combattre. Mmh. Donc on peut comprendre que les dirigeants du HDP, pour protéger leur propre organisation, pour des raisons donc tactiques, ont accepté de participer au gouvernement, ce qui est constitutionnel. Ça les protège quelque part. Mmh. Il faut comprendre l'environnement de polarisation extrême qui existe actuellement en Turquie.
Mmh. Alors, on arrive pratiquement à la fin de l'émission. Je parlais tout à l'heure de la solitude, et je vous posais la question tout à l'heure, Alika Sansigil, de M. Erdogan dans son pays. Qu'en est-il à l'international ? Qui sont ses amis aujourd'hui ?
Mais il est totalement décrédibilisé. Mmh. Les Américains s'en méfient, les Européens aussi, parce qu'il fait n'importe quoi. Et sa diplomatie, qui a bien commencé au Moyen-Orient en 2003-2004, est une faillite totale aujourd'hui. La Turquie est totalement isolée dans la région. Et en face, il y a le rival historique de la Turquie, dans la région, c'est l'Iran qui monte en puissance. Donc il a perdu toute crédibilité à l'international.
En tout cas, la perspective d'une intégration à l'Europe s'éloigne sérieusement dans le contexte actuel, on imagine.
Oui, mais pour le coup, on peut aussi considérer que sur ce dossier turco-européen, les Européens ont une large part de responsabilité et que s'ils avaient été un peu plus politiques, s'ils n'avaient donc pas rompu avec M. Erdogan, celui-ci aurait été plus contraint, il n'aurait pas pu faire ce qu'il voulait. Et j'ai une toute petite nuance avec Ali sur les relations régionale. Aujourd'hui, il y a un cours positif des relations avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et Turquie, Arabie Saoudite et Qatar soutiennent le front al-Nosra, qui est une partie des djihadistes. Mais alors, quand on a soutenu ou quand on a eu une certaine complaisance à l'égard de Daesh et qu'aujourd'hui, on soutient al-Nosra, vous considérez qu'il n'y a pas beaucoup de suivi, il n'y a pas beaucoup de rationalité dans cette politique. Sauf que Monsieur Erdogan est obsédé aussi par une chose au niveau régional, c'est qu'il veut faire tomber Bachar el-Assad par tous les moyens, qu'il a prédit à maintes reprises que celui-ci allait tomber, sauf que Bachar el-Assad, il est toujours là, très affaibli certes. Donc là aussi, il y a une erreur monumentale dans la façon de gérer la crise syrienne de la part de Erdogan.
Oui, il est aussi obsédé par le fait que le PKK, donc cette organisation de guérilla turque, a une branche en Syrie, au nord de la Syrie. Et il a très peur que, en nord de la Syrie, se constitue un territoire kurde autonome. Et c'est pour ça qu'il aide Daesh contre les Kurdes. Mais le problème pour lui, c'est que Daesh a été battu par les Kurdes. Parce qu'ils sont plus organisés. Et l'intérêt de la Turquie, évidemment, est qu'il y ait un État kurde indépendant et avec des moyens, en bon voisin. Mais Erdogan est dans son délire.
Il y aurait beaucoup à dire encore. On en reste là pour ce soir. Bien sûr, on y reviendra. La Turquie est souvent à la une de l'actualité en ce moment. Merci à tous les deux. Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS. Je rappelle le livre que vous sortez tout à l'heure, enfin aujourd'hui même, c'est l'année stratégique 2016 aux éditions Armand Collin. Et puis Ali Kassantigi, La Turquie d'une révolution à l'autre, c'est Fayard. Bonsoir, à demain.